Bonjour à tous. J'aimerais juste remettre la parole devant le Seigneur. Père, ta parole est une lampe à nos pieds et nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin d'être réconfortés. Nous avons besoin dans notre quotidien de ta présence. Et cette parole, quand elle habite en nous, Seigneur, est vraiment celle qui restaure, celle qui encourage. Et nous te demandons de la refléter aussi vers l'extérieur. Amen. Je vous propose une lecture. D'abord quelques versets dans Matthieu 18, les versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, c'est-à-dire 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Énorme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disant « Aie patience envers moi, je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, s'en allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Ce passage est connu, David en a parlé récemment, cette dette était immense et par rapport à ça, celui qui lui devait quelques sous, c'était vraiment très peu. Mais je voudrais vous raconter l'histoire de Martin. Martin, un jeune homme pieux, très sérieux par rapport à la religion. Ça s'est passé il y a quelques siècles. Pour être vraiment bien, il est entré au couvent, loin des tentations. Il veut plaire à Dieu, souvent désespéré car il n'y arrive pas. Dans sa cellule de couvent, dans sa solitude, il lui arrive de se fouetter le dos jusqu'au sang pour se corriger. Car sa conscience l'accable, car il ne se sent pas pur. L'Église à l'époque proposait bien l'achat d'indulgences. C'est quoi des indulgences ? J'ai regardé dans le dictionnaire. C'est la rémission totale. C'est une rémission totale, ça c'est une indulgence plénière ou partielle, indulgence partielle, de la peine temporelle due au péché pardonné. Ça semble compliqué. Hein, on pouvait. Et c'était surtout une affaire de sous. Parce qu'on pouvait acheter des indulgences. Et peut-être Dieu serait indulgent et limiterait la peine. On avait des indulgenciers, d'après le dictionnaire, c'est attacher une indulgence à un objet de piété. Indulgencier, un chapelet. Le chapelet qu'on utilise dans l'Église catholique, c'est en fait pour limiter les jours qu'on passe au purgatoire. Vous avez aussi les familles qui étaient un peu aisées construisaient, faisaient bâtir des crucifix dehors, dans la nature, vous en voyez encore. Et en bas, quand vous regardez, il est écrit « Si vous faites tant et tant de notre Père et beaucoup plus d'Ave Maria, vous aurez tant et tant de jours de rémission. » Donc c'était aussi un indulgencier. C'est différent que la grâce, n'est-ce pas? C'était une affaire de sous pour financer le faste de l'Église. Et Martin sentait sa conscience, que sa conscience ne pourrait pas être tranquillisée par ses moyens humains. Il cherchait une issue à son désespoir dans la Bible en latin de l'époque. Il cherchait, mais il n'y a pas de lumière. Donc, souvent, il se fouettait, ça c'est réel. En étudiant Éphésiens 2, 1 à 10, Martin a trouvé la lumière. Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Martin a trouvé la lumière. Tout à coup, tout était changé. La révélation, la liberté. Il s'était enfermé pour se sauver. Fini les craintes, les contraintes, les autoflagellations. Quelle joie! Christ, par sa mort et sa résurrection, a réglé le problème du péché. Il n'y a plus rien à ajouter. Martin est sorti de sa sombre cellule. Il voulait que tout le monde connaisse la bonne nouvelle. Il s'est mis à traduire la Bible en allemand pour que chacun puisse découvrir le salut gratuit de ses propres yeux et quitter l'emprise de Satan. La prison de la loi des hommes, où l'on tourne en rond en essayant de se sauver par des moyens dérisoires, de l'argent, des privations, des pénitences. La clé, ce qu'il transmettait pour être libéré, c'est la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Il n'y a plus rien à ajouter. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce ne sont pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Martin a accepté la grâce, l'indulgence ne lui suffisait pas. Il voulait plus que de l'indulgence, peut-être. Là, il y a une affirmation, vous êtes sauvés. Par la grâce, je reviens au texte qu'on a lu dans Matthieu, le serviteur impitoyable qui n'aurait pu rembourser son immense dette et qui méritait d'être vendu avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, eh bien, cet homme se trouve libre. Il avait demandé l'indulgence et le roi lui a fait grâce. Il avait demandé de l'indulgence, un temps d'échelonnement pour la dette, et là, l'ardoise est vide. Le maître a fait grâce. Que faisons-nous de la grâce de Dieu ? Et vous savez ce que veut dire la grâce, d'après le dictionnaire ? C'est une faveur que l'on fait sans y être obligé. Faire grâce d'une dette, l'en dispenser. La grâce ne se mérite pas. C'est le Larousse qui dit ça. Que faisons-nous de la grâce de Dieu ? Selon 1 Pierre 4,10, nous sommes dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Nous devons mettre les dons que nous avons reçus au service des autres. Nous avons reçu la grâce et nous devons l'apporter aux autres par différents moyens. Le serviteur impitoyable aurait pu, dû, user de grâce envers son compagnon qui lui devait un petit quelque chose. Le maître lui avait fait don du pardon total et lui n'avait même pas partiellement entendu son compagnon d'infortune. Ici, la grâce imméritée qu'il avait reçue lui a été retirée. Parce que vraiment, il n'avait rien compris. Il n'avait pas vu l'enjeu. Il savait juste qu'il était libre, mais il voulait continuer à faire comme avant. Il n'avait pas apprécié le cadeau de pardon. Il nous faut apprécier, comprendre, intégrer la notion de grâce. Et il faut travailler cela. Cette grâce, c'est le plus important. Nous venons de le célébrer par la Sainte Cène. Hébreux 13, 9 nous encourage. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Jean-Denis en a parlé, étrangères. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. La base, c'est la grâce. Certains orateurs aujourd'hui, pour aller plus loin, parlent en allemand, je l'ai entendu en allemand, des Billigegnade, la grâce bon marché, la grâce low cost, bradée, bas de gamme. Mais on n'en a pas à parler, elle n'existe pas. La grâce, elle a coûté très cher au Seigneur. Elle n'est pas bon marché. Elle est gratuite parce que le Seigneur a tout donné. Cette grâce-là n'existe pas. Nous avons été rachetés à grand prix, le sang de Jésus. Et nous ne pouvons pas mériter la grâce. Personne ne peut mériter. On peut retourner comme Luther dans sa cellule et travailler cela. On s'enferme. Romains 4,4 nous éclaire. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si je fais quelque chose pour quelqu'un, l'autre me doit quelque chose. Si j'ai un salaire, c'est que j'ai travaillé pour mon patron. Mais chez Dieu, c'est gratuit. On n'a pas à travailler pour payer notre grâce. C'est une fausse idée. La grâce ne se mérite pas. Paul a écrit à Tite, au chapitre 3, les versets 4 à 7, « Mais lorsque la bonté de notre Dieu et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance. » Par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. La grâce de Dieu nous rend héritiers de la vie éternelle. Et ça, c'est parce qu'un héritier, c'est toujours au bon vouloir de celui qui lègue. Il y a des droits, la descendance, mais ici, nous sommes des enfants adoptés. Et nous sommes appelés héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ ailleurs. Nous sommes héritiers de la vie éternelle à cause, grâce à Jésus. Dès que nous oublions la notion de grâce, notre vieil homme, comme l'appelait Martin, nous ramène à la loi. Ce qui est relaté chez les Galates. Galates 3, 1 à 5. ô Galate dépourvue de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous en finir par la chair? Maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Les Galates, Paul a dit revenir en arrière, parce que les Galates se sont de nouveau tournés vers la loi. Il est interdit de faire ci, de manger ça. Et Paul a dû les reprendre et leur a dit, mais vous êtes dépourvus de sens, vous rejetez la grâce, maintenant vous voulez reconstruire votre propre salut. Et parfois, dans la vie, on prend des chemins comme ça. Vous connaissez Jésus-Christ crucifié et vous remettez en place la loi que nul homme ne peut accomplir ou suivre à 100%. Israël a bien tenté de suivre la loi, mais ce n'était pas ça. Vous savez, la grâce, elle libère. Quand nous vivons de la grâce, quand nous n'avons plus le fardeau, est-ce que le péché est pardonné? Est-ce que j'appartiens au Seigneur? Quand ça s'est passé, c'est une autre vie qui commence. La grâce libère, comme le serviteur impitoyable qui a accepté sa libération. Mais il a appliqué la loi à son prochain. Là, nous sommes forts. Moi, je veux bien de la grâce, mais le prochain, j'applique la loi. Et la loi, elle enferme. Le serviteur impitoyable, il a accepté d'être libéré et il voulait jeter en prison celui qui devait un petit quelque chose. À cause de la loi, Martin était emprisonné. Grâce à la loi, à la foi, il a été libéré. La grâce est un moteur, la loi est un frein. Dans notre cheminement de croyants, combien de temps, souvent d'années de perdu, à chercher à s'améliorer, à briller, mais souvent à douter. Un jour, j'ai la certitude, mon ascension vers le ciel est en bonne voie, je suis près du but. Seigneur, patiente encore un tout petit peu. Ce n'est pas le moment de revenir, je n'ai pas encore atteint le point. Bientôt, je pourrai te plaire. Et le lendemain, mes sentiments m'accusent, me dépriment. Sauvé, pas sauvé, c'est la question. Alors que, avec la grâce, il est dit, vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pendant ce temps de sanctification intensive, je ne fais pas ce à quoi je suis destiné, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Ça, c'est le nouveau ministère. Quand les disciples sont venus à Jésus, il ne leur a pas dit, bon, maintenant, vous prenez quelques jours, quelques années peut-être, à vous améliorer et après je vous envoie. Il a envoyé des pêcheurs graciés. Nous avons reçu le pardon, la grâce. Dans Romains 3, 19 à 20, Paul dit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » On peut toujours essayer, ça ne marchera pas. Ce n'est pas en proclamant la loi de Dieu que nous parviendrons à changer le monde radicalement. Quand nous parlons avec les gens, Nous parlons souvent des mœurs, nous parlons souvent de ce qui ne va pas dans notre société. Et c'est beaucoup plus facile que d'annoncer le salut en Jésus. Bien sûr, le peuple de la loi était une lumière au milieu des ténèbres des peuples environnants. Je parle d'Israël. Mais cela n'a pas duré, car ce n'était pas parce que ce peuple n'était pas capable de rester fidèle constamment. Et l'Ancien Testament est vraiment un récit de haut et beaucoup plus souvent de bas du peuple de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est dans Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Lorsque nous marchons avec Christ, lorsque nous faisons ce à quoi nous sommes destinés, répandre la grâce par l'annonce du salut en Jésus-Christ, du salut gratuit, c'est lui qui opère la sanctification. Si nous sommes dans notre mission, lui, il opère cette sanctification. On ne peut pas la produire soi-même. On est malheureux parce qu'on n'y arrive pas. C'est la reconnaissance qui nous pousse à le servir et non la peur du jugement. Et quand on nous annonce toujours le jugement, quand on veut s'améliorer à cause du jugement, la motivation n'est pas bonne, on tape à côté. La grâce non méritée était ancrée dans la pensée de ceux qui nous ont précédés. C'est vrai, beaucoup de ceux qui étaient avant nous, la grâce, et ils savaient être reconnaissants pour la grâce. Je me souviens, dans beaucoup de livres d'histoire et de romans, pour dater l'époque des récits, l'auteur utilisait la formule « en l'an de grâce ». Celle-là, aujourd'hui, vous ne la sortez plus. Hein. Mais les auteurs, ils écrivaient « en l'an de grâce », même, je parle de Robinson, n'importe, même les auteurs de romans, ils écrivaient « en l'an de grâce ». Im Gnaden Jahr Gottes ou im Jahr des Herrn. Hein, ça appart les années dont Dieu nous fait grâce. Notre société a oublié. On pourrait aujourd'hui parler, écrire en l'an de revendication. C'est ça notre société. La reconnaissance de la grâce, on peut oublier. Nous, on a des droits, on veut revendiquer. Et n'importe s'il y a un mouvement quelque part, chacun essaye de tirer la couverture à soi, d'améliorer son petit bien-être. Il n'y a pratiquement que des revendications. La grâce est un cadeau. Aujourd'hui, beaucoup de cadeaux sont revendus le jour suivant de leur réception. Hein ? On offre quelque chose, mais ça a tellement de valeur que le lendemain, celui à qui on l'a offert le met déjà au bon coin. Mais c'est révélateur de notre société. Déjà, le cadeau, on ne sait pas quelle valeur, on ne se demande plus pour quelle valeur on a ce cadeau. Alors, pour conclure, je dis apprécions et faisons apprécier la grâce de Jésus. Amen. Prions encore. Père, rappelle-nous tous les jours, à chaque instant, combien est grande la grâce de Jésus. Nous avons besoin de cela, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous avons aussi besoin de ton aide pour faire grâce à nos prochains. Et nous te demandons, assiste-nous pour la parler de cet esprit que tu nous as donné. Assiste-nous, Seigneur, et transforme nos vies. Et donne-nous d'être vraiment des serviteurs et d'avoir la bonne optique pour quand nous croisons nos contemporains, Seigneur, pour ne pas parler, oui, de mœurs, d'améliorer la société, mais d'annoncer la libération, d'annoncer la liberté en Christ, le salut éternel. Tu es le Tout-Puissant et nous t'invoquons, nous te demandons. Viens-nous en aide, Seigneur, et que ton esprit accompagne chacun de nous sur nos chemins. Amen.